Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Mbappé, allez Mbappé, Mbappé, la frappe, ouais. Eh oui, Kylian Mbappé, après le pénalty raté, délivre l'équipe de France dans ce quart de finale de la Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, allez les bleus, allez les bleus. Et ben oui, on est dans Rotten sans flamme pour une magnifique semaine. Et quelle semaine! Déjà, c'est la dernière semaine de l'année. Donc après, direction les vacances. Et des vacances bien méritées. Et encore une fois, on vous remercie pour les audiences tout au long de l'année. On est monté crescendo. Tant mieux, écoute, on s'est régalé. Et merci, merci beaucoup, vraiment. Du fond du cœur, on vous remercie. Et on va vous remercier tout au long de la semaine. Parce qu'on va vous rendre ça, on va vous rendre l'appareil. On va, toutes les infos, elles seront dans Rotten sans flamme. On va faire monter la sauce. Et à commencer par demain soir. Parce que demain soir, c'est le grand jour, demi-finale de la Coupe du Monde, France-Espagne. Quelle affiche pour en parler aujourd'hui. On est avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ah bah c'est une semaine de demi-finale et de finale de Coupe du Monde. On est à bloc.
Évidemment. Écoute, écoute, on espère. Bon, il y aura la finale, ça c'est sûr, mais on espère que la France va y participer. En tout cas, il y en a un qui espère ça. C'est Eric Dimeco. Salut Eric.
Salut Jérôme, salut Benoît, salut à tous.
Salut Eric. Comment ça va?
Ouais, ah,
regarde, t'as pas trop chaud? C'est bon.
Ah non, pourquoi? Mais on est habitué nous à la chaleur en bas.
Tu sais, oui, c'est vrai.
Oui, oui, d'accord.
Il y a pas un instant promo, Eric? Je sais pas.
Il y a pas quoi?
Il y a pas un instant promo de quelque chose?
Non. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ça, vendredi.
Une prime à vendre.
Vendredi soir, Osiris est à concert à la Bouilladis. Voilà.
C'est à la Bouilladis, incroyable.
J'espère que c'est climatisé.
Profitez-en, il y a 10 places de libre.
Non,
mais. On est avec Christophe Dugarry.
Ça va, Dugarry? Salut Eric, salut Benoît, salut Jérôme. Ça va très très bien. Enfin, une semaine excitante.
Ah,
avec des matchs de haut niveau. Enfin, ça y est, on est dans la Coupe du Monde.
Eh, la Coupe du Monde va démarrer sur RMC.
Oh là là, enfin, ça y est.
On a fait des matchs amicaux avant. Pourquoi tu n'es pas venu que la dernière semaine?
J'espérais, puis j'attends toujours. J'ai vu 2-3 matchs pas trop mal. Bon, le reste.
T'as des belles demi quand même, on va se régaler là.
Exactement, des très belles demi. Très, très.
Et on est à J-1 de France-Espagne, la première demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, RMC Radio officielle. Rotten sans flamme, l'émission de référence. À 19h, Rotten se chauffe. Est-ce que cette demi-finale sera déterminante dans la carrière d'Olise? Il a explosé aux yeux du monde entier. Il doit confirmer demain face à l'Espagne pour nous permettre d'atteindre la finale. Un ami de Rotten sans flamme à 18h45 dans le Allo Jérôme. Julien Escudé, évidemment international français, t'as partagé des sélections avec lui d'ailleurs Jérôme. Julien Escudé qui est consultant pour des médias espagnols, il viendra nous donner son ressenti avant cette demi-finale. Et puis un grand procès à 18h30, le procès de ces supporters du Real Madrid qui sont frustrés de voir Mbappé briller à la Coupe du Monde. Et je vous annonce effectivement un grand procès. Comment tu vas te positionner toi Eric? Tu vas être pro-supporter du Real ou tu vas défendre Kylian Mbappé?
Non. Moi, on l'a déjà fait dans le Moscato Show. J'ai peur que vous souffriez de la comparaison du coup avec ce beau débat qu'on avait fait.
Bon, je pense pas.
C'est pour ça qu'on le refait.
S'il y avait Vincent et Denis, à mon avis, on va pas souffrir.
Tu crois que les gens n'ont pas tout compris ce qu'on a dit?
Écoute, en tout cas, l'avis de Denis, j'ai rien compris. Je l'ai écouté 3 fois et j'ai pas compris.
C'est pareil sur le
Des fois, je me demande si Denis se comprend lui-même.
Ouais, c'est sûr. On l'embrasse, hein, Denis Charvet.
Ah, mais là, qui profite bien des vacances.
Et puis à 19h30, on va revenir sur un des faits marquants du week-end. Vous avez vu l'Angleterre et l'Argentine se qualifier pour les demi-finales. Ce sera l'autre demi à suivre mercredi sur RMC. On va revenir sur l'embrouille Bellingham-Tourelle. Est-ce que c'est anecdotique? Eh oui, le coach contredit par son joueur star en zone mixte après le match. 19h30, donc, pour parler de ce sujet. Oui,
Benoît, je vous écoute pas exactement tous les jours. Vous avez fait quand même ce débat parce que c'est la première fois, je crois, que sur une Coupe du Monde, on parle autant d'arbitrage, de théorie du complot, qu'on nous avait vendu la VAR comme un instrument pour arrêter tous les problèmes, non.
On n'avait pas anticipé le président américain qui prend des décisions arbitrales. Ça, on l'avait pas anticipé.
Oui, non, on l'avait pas anticipé.
C'est la faute à la VAR, ça aussi.
Ouais, certainement.
C'est vrai.
Non, mais on parlera d'ailleurs. On va démarrer les bilans de la Coupe du Monde à 19h45. Est-ce que vous êtes convaincu par ce format à 48? On sait que Christophe est convaincu.
Ah oui.
On a hâte d'avoir l'avis de Jérôme et d'Eric sur ce débat-là.
Quel humour, quelle émission humoristique, c'est fou.
Ah, c'est sûr. On est toujours en direct de la brasserie Flora.
J'ai peur que ça passe sur Rire et Chanson, moi, si ça continue, là.
Non, RMC, oh.
On a vraiment des propositions, mais franchement, on est très attaché à RMC, donc on restera sur RMC.
Et puis, on peut pas avoir Pascal tous les jours, ou Stevie, donc forcément, on garde un peu de sérieux.
Bah, eux ont signé à Rire et Chanson.
Exactement. Ouais. C'est pour ça que vous les entendez moins.
Bah oui, on les a pu. Ouais. On vous l'annonce, c'est un transfert.
C'est bon, ça. Ouais. On a un beau cadeau pour vous, pour demain, pour cette demi-finale France-Espagne à 21h. On vous propose d'aller passer la soirée au Grand Rex, écran géant, expérience immersive. Si vous voulez remporter vos places, vous composez tout de suite le 32-16. Les plus rapides seront récompensés pour cette magnifique demi-finale de Coupe du Monde. Allez, 18h05 sur RMC, tout de suite. Sacrée maîtrise de l'espagnol dans Rotem sans flamme, écoutez.
L'Espagne avait tellement de talent dans cette sélection.
Les projets qui étaient vendidos.
Est-ce qu'on reverra un jour autant de talents de la même génération?
Estoy muy, muy feliz et orgulloso de hablar contigo, vraiment.
Est-ce qu'on reverra autant de magiciens vraiment réunis dans une seule et même sélection?
Hay que ganar ante todos los equipos.
Attention, pas faire de faute!
Aucun attaquant, mais finalement aucun problème. La recette du football espagnol est loin de toute conformité.
Oui, c'est bien.
Collectivement, on est sur des milieux qui savent parfaitement jouer le football de mouvement. Et non celui de position, la grande force de cette équipe d'Espagne.
No entiendes, no entiendes, pero entiendes.
Ajouter 2-3 doses de génie.
Non, hay revancha en football.
Ryan Cherki contrôle de la poitrine, enchaînement derrière avec la volée puissante du pied gauche.
Et à la fin, c'est vous qui allez soulever le trophée.
Gracias, gracias, muchas gracias. Adios. Vraiment, vraiment, merci beaucoup.
RMC, intégrale Coupe du Monde.
Bébé, il arrache moi à l'espagnol. Hein.
Ah, il est mieux.
Bah, c'est vrai, il est plus concentré.
Ouais,
c'est marrant.
Non, non, je rigole. Ouais. Hein. Moi, je rigole. Hein.
Bah, le meilleur accent espagnol, c'est le tien, du gars, quand même.
Ouais, c'est vrai. Non, ouais.
Ah, franchement,
c'est
vrai que tu as joué, incroyable.
Ouais, ça,
c'est vrai. Cette veille de demi-finale de Coupe du Monde entre les Français et les Espagnols, la meilleure nation au classement FIFA contre le champion d'Europe en titre. Match à Dallas, demain, coup d'envoi 21h sur RMC. Parlons-en avec Fabrice Hawkins, qui est déjà à Dallas pour RMC Sport. Salut Fabrice.
Salut Fab. Salut
à tous.
Ah oui, juste après, tu nous donnes ton info mercato de la journée, hein, parce que Jérôme n'en revient pas. Mais parlons tout d'abord de l'équipe de France.
Pas surprise.
Parce que côté français, on a du respect, mais pas de crainte envers l'Espagne. Hein.
Ouais, les Bleus sont sûrs de leur force et savent qu'ils peuvent faire la différence, et surtout ils savent qu'ils peuvent faire mal à n'importe qui. Et quand on se souvient de la demi-finale de l'Euro en 2024 où ils avaient perdu, bah, c'était pas gagné, mais depuis beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses se sont passées. Je vous propose de le résumer en trois étapes depuis l'Euro 2024. Donc, dans la foulée de cette défaite face à l'Espagne, il y a eu une discussion entre les joueurs et Didier Deschamps au mois de septembre 2024. C'est le rassemblement qui a suivi l'Euro. Et les joueurs de l'équipe de France, Kylian Mbappé en tête, ont parlé à Didier Deschamps pour lui expliquer qu'ils étaient frustrés, que certaines choses dans le jeu n'allaient pas forcément. Didier Deschamps en a pris conscience, il le savait déjà évidemment, mais c'est des éléments dont il a pris en compte pour continuer à composer avec les Bleus. L'autre temps fort de cette équipe de France, c'est le quart de finale de Ligue des Nations, France-Croatie, en mars 2025. Là, c'est la première fois que Didier Deschamps a réellement installé Michael Olise en numéro 10. On se souvient, avec un but magnifique, notamment sur Coup France. C'est là qu'on a vraiment compris l'ampleur que pouvait prendre ce joueur en équipe de France. Et puis, il y a France-Espagne, le dernier. Donc, c'était en juin 2025, en juin de l'année dernière, mené 4-0, l'équipe de France qui a perdu quand même ce match, hein, 5-4. Mais c'est là aussi où Didier Deschamps et Guy Stéphane ont accepté le principe de ces quatre offensifs, donc avec Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé qui étaient déjà alignés et qui risquent de jouer demain, de composer le 11 de départ de Didier Deschamps. Là, Didier Deschamps et Guy Stéphane ont compris qu'il fallait jouer avec beaucoup d'offensifs malgré ce déséquilibre qu'on a pu voir donc sur cette demi-finale de Ligue des Nations. Mais c'est comme ça que cette équipe de France peut jouer, peut gagner aussi, et c'est ce qu'on devrait voir demain donc face à l'Espagne.
Et on a d'y être. Parle-nous de l'info mercato de la journée, parce qu'il y a un titulaire de cette équipe de France qui s'est engagé, qui va s'engager avec le Paris Saint-Germain.
Ouais, ça devrait se boucler juste après, en tout cas, l'élimination de l'équipe de France. Hein, donc, soit après l'Espagne, ou alors si l'équipe de France va au bout, qu'elle gagne. J'allais dire Didier Deschamps, lapsus. Luis Enrique devrait récupérer Lucas Digne, donc, puisque le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec l'international français sur la base d'un contrat de 3 ans. Lucas Digne, qui évolue à Aston Villa, il a une clause un petit peu inférieure à 10 millions d'euros, et donc le Paris Saint-Germain va la lever pour récupérer Lucas Digne, qui va venir en doublure de Nuno Mendes.
Ça, c'est fou. Hein. Comment tu réagis, Jérôme? On en fera un podcast, mais Digne qui signe au PSG 3 ans.
Ouais, c'est surprenant.
Le comeback à 33 ans.
Non, mais c'est surprenant parce que ça va pas du tout dans la politique du club, mais. Je sais pas, nous on
c'est-à-dire,
nous a expliqué.
C'est-à-dire, Jérôme, c'est quoi la politique
c'est,
du club?
La politique, c'est de mettre, si c'est pas des hommes de base, c'est de mettre des plus jeunes pour qu'ils s'aguerrissent et qu'ils progressent. Donc, Lucas Digne, c'est tout l'inverse. Donc,
c'est une opportunité, après, en fait. Hein. C'est une opportunité de marché, parce que à ce prix-là, je pense que ça va être un peu plus que 5 millions d'euros. Bon, un joueur qui est titulaire en équipe de France, qui certes a un âge avancé, mais qui vient pas non plus pour être titulaire indiscutable. Évidemment, il y a Nuno Mendes, il va venir pour apporter toute son expérience. Je pense que c'est plus une opportunité de marché que quelque chose qu'ils avaient déjà anticipé il y a quelques mois.
Ah ouais. T'as raison, Fabrice. Peut-être que c'est aussi pour annoncer le départ de Lucas Hernandez.
Parce qu'il
manquerait plus qu'il garde Lucas Hernandez en plus. Je vois pas l'intérêt d'avoir pris Lucas Digne. Mais en tout cas, je suis surpris parce que le fait de prendre un joueur comme ça, et c'est pas contre Lucas, parce que moi j'aime beaucoup sa personnalité. Il est calme, il fait pas de bruit. Son passage au PSG n'a pas été très marquant, mais en tout cas, c'est pas non plus une catastrophe quand il est venu au PSG. Il était de passage, il est reparti. Là, il vient. Bon, écoute, j'espère avec le statut de champion du monde, ça sera bon signe pour lui, pour la suite. Mais c'est vrai que dans la stratégie sportive, moi, j'ai hâte d'entendre Luis Campos et les dirigeants parisiens ou Luis Enrique pour nous expliquer.
C'est un joueur fiable, Jérôme. C'est un joueur fiable. Oui. Par contre, c'est pas un renfort. Voilà, c'est pas un renfort, c'est un joueur de plus, c'est
c'est un joueur de complément.
C'est un joueur de complément. Donc voilà. Écoute, il est annoncé comme ça. Si ça suffit pour le PSG, ben écoute, on verra.
Oui, t'as raison.
De toute façon, il fera des matchs vu le turnover qu'il fera, vu les blessures de Mendes, il fera des matchs, donc on verra.
Voilà, et puis le jour où Mendes est pas là, tu as Lucas Digne.
Une valeur sûre.
Tu perds un petit peu en qualité peut-être, mais tu baisses pas énormément, quoi. Il fait le job.
Merci Fabrice.
Ils n'ont aucune qualité similaire quand même. Hein.
C'est pas du tout le même jeu, ça c'est sûr.
C'est pas le même. Oui, bah, mais c'est pas pour ça que tu.
Nuno Mendes, il a progressé offensivement, il a progressé défensivement. Il y a quand même peu d'attaquants qui l'ont fait mal. Digne, on peut pas dire que ce soit un immense défenseur, c'est un bon contre-attaquant, il a un bon pied gauche, il a un pied gauche sûr, il y a pas de problème.
Ouais,
il est beaucoup moins rapide, beaucoup moins vite, enfin il a beaucoup moins dans la besace quand même que
c'est pour ça que c'est pas le doublure.
Ouais. 18h13 sur RMC.
En général, on veut que la doublure elle soit au moins équivalente ou légèrement.
On
ne
va pas Luis Enrique.
Il y a quand même un bon ton en dessous quand même.
Revenons donc sur ce match qui nous attend demain, la demi-finale de la Coupe du Monde. Est-ce que le rapport de force s'est inversé, Jérôme, entre la France et l'Espagne pour toi?
On a le sentiment quand même que la France a bien progressé. Et que la France a plus d'arguments offensifs. Alors même si, attention, hein, ils ont Yamal comme tête d'affiche, l'Espagne. Et Yamal, on en a parlé la semaine dernière et vendredi. On sent que il est en train de monter de niveau là et il a récupéré physiquement. Je le trouve beaucoup mieux et moi j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps sur le quart de finale. Donc méfiance parce que en effet si Yamal est très bien, lui il bonifie tout le collectif et ce collectif espagnol. Après là où je te dis le rapport de force, il s'est pas inversé totalement. Parce qu'il faut pas non plus prendre l'Espagne pour une petite équipe.
Mais c'est du 50-50.
Mais c'est du 50-50. Et d'autant plus, je vais te dire, moi, on va mettre les pieds dans le plat. Alors après, peu importe, je vais peut-être pas me faire des amis partout. Mais moi, je pars du principe que Didier Deschamps, et c'est le rôle de tout entraîneur, il est pas obligé de faire du copier-coller. Par rapport aux autres matchs, c'est-à-dire que moi j'entends qu'il faut jouer absolument avec 4 joueurs offensifs parce que ceci, parce que cela, ok, pas de problème. Mais bon, les 4 joueurs offensifs, moi je reste persuadé que sur certaines équipes il y a du bon et sur d'autres, il y a du moins bon. Et je pars du principe que là, on va jouer une équipe espagnole qui, pour de bon, on connaît la stratégie espagnole. De toute façon, eux, ils vont pas jouer contre nature. Ils veulent avoir le ballon. Ils l'auront, le ballon, très certainement. Surtout si on joue avec quatre joueurs offensifs. Je pense qu'on va souffrir au milieu de terrain. Ça, c'est une certitude. Après, surtout quand tu joues avec Tchouaméni, parce que là, tout le monde nous annonce que Tchouaméni va revenir. Donc, Tchouaméni, encore une fois, pour moi, c'est plus un défenseur central qu'un milieu de terrain. Voilà, dans son attitude et dans ses points forts, c'est avant tout physiquement, dans l'impact, il est fort. Et puis dans les premières relances, il joue vraiment comme un défenseur central. Donc, je pars du principe que le milieu de terrain, il est un peu clairsemé quand on joue comme ça. Et quand on va avoir trois joueurs, voire quatre, parce qu'ils aiment être dans l'axe au départ pour redoubler les passes. Et puis après, ça explose sur les côtés avec Yamal, avec des latéraux aussi qui peuvent monter du côté espagnol, il n'y a pas de souci. Ou Nico Williams, même si il n'est pas titulaire depuis le début, mais voilà, c'est comme ça, c'est la stratégie espagnole. Moi, j'essaierai de contrer cette équipe au milieu de terrain.
Connaît Tchouaméni,
Oui, Tchouaméni, parce que Tchouaméni, il va le faire jouer. Ouais. Donc Tchouaméni, en point de basse, au milieu de terrain, pas de problème. Quand je vois la forme de Koné, parce que à chaque fois qu'il a joué, moi je l'ai trouvé très bon, et je trouve qu'il est très bon, et que lui, pour de bon, il aime rentrer dans les duels, il gagne les impacts, et avec le ballon, il est loin d'être maladroit. Tu as les trois cadors devant, Mbappé, Dembélé, Olise. Bon, bah, je pense qu'il y a pire, tu vois, ouais. Si tu jouais avec ces trois-là. Écoute, t'as densifié ton milieu de terrain, et surtout, tu vas faire du 1 contre 1 quasiment avec ces trois milieux de terrain côté espagnol. La pointe haute Olmo avec Rodri et avec Pedri. Bon, écoute, je pense que Pedri, s'il sent qu'il y a le Koné qui est pas loin de lui,
Pedri ou Ruiz, hein, parce qu'il y a une incertitude côté espagnol. Bon,
à mon avis, même si le dernier match c'est Ruiz qui a joué et Pedri est rentré, de toute façon, il y en a un qui va jouer une heure et l'autre qui va jouer un peu plus de 30 ou 40 minutes, voire plus s'il y a les prolongations. Donc en fait, ces joueurs-là, si tu as quelqu'un dessus systématiquement, bah, ils vont moins respirer, tu vois. Ils vont même reculer au bout d'un moment. Et je pense que Koné, c'est un vrai point fort. Okay. Moi, je vois le match comme ça. Ouais. Donc après, écoute, tant mieux. Si Didier pense que l'équipe, elle est très forte et elle peut imposer son style à l'équipe d'Espagne. Écoute, je suis pas sélectionneur de l'équipe de France, hein.
Fabrice, c'est une possibilité avant d'entendre Duga et Eric, ce changement tactique chez Deschamps?
A priori non, parce qu'il l'a dit lui-même ces derniers jours, il entend rester avec quatre offensifs, il blaguait même, mais bon, ça c'était vraiment sur le ton de la rigolade après la qualification en demi-finale et la victoire contre le Maroc, il blaguait en disant qu'il allait mettre 5 ou 6 offensifs. Il veut vraiment finir cette compétition sans
en avoir
avec
l'équipe
de France avec ce système. Après, en cours de jeu, en fonction du scénario, je rejoins Jérôme, je pense que rien n'est impossible, mais je pense que ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer pendant le match. Mais sur le 11 de départ, à mon sens, c'est partir avec 4 offensifs.
Duga, est-ce que le rapport de force est inversé entre la France et l'Espagne?
Encore, si la France gagne, on pourra le dire, mais pour l'instant, avant le match, non, c'est trop pour le dire. Qu'est-ce qui peut laisser croire que le rapport de force est inversé? C'est une impression de facilité laissée par cette équipe de France. Je pense que c'est surtout ça, et une impression un petit peu plus dure pour les Espagnols, qui ont semblé un petit peu moins dominateurs, un petit peu plus dans le dur par moment, alors que ça n'a pas été le cas de l'équipe de France. Donc on a l'impression que les choses se sont inversées, mais faut pas être dupe. Les qualités des Espagnols sont toujours là. On a parlé de Yamal, qui est le symbole de cette équipe, qui n'est pour l'instant pas à son top, mais qui à tout moment peut vite le redevenir, et sur 20 minutes, une demi-heure, une mi-temps ou même un match entier, est capable de te faire tourner la tête de n'importe qui et de gagner le match à lui tout seul. Donc il faut pas crier bien évidemment victoire trop vite, parce que cette équipe espagnole, elle a de réelles certitudes. On l'a vu, que ce soit pendant le match ou en cours de match, avec des changements de fin de, voilà, cette équipe, elle a appris à souffrir dans son collectif, elle a des individualités, elle a tout ce qu'il faut pour faire d'elle une grande équipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été un grand champion d'Europe il y a maintenant 2 ans. Ils ont largement mérité leur titre, ils étaient l'équipe la meilleure, et à cette époque-là, on sentait bien que l'équipe de France était, malgré un fort potentiel, était en dessous de cette équipe espagnole collectivement. Là, on a l'impression que les choses se sont un petit peu rattrapées. C'est pour ça que moi, je pense que plus que jamais, elles ne se sont pas inversées, mais elles se sont égalisées. Et si l'équipe de France venait à gagner ce match et à montrer une excellente maîtrise, on pourrait parler éventuellement d'une petite inversion. Ouais.
Eric, est-ce que pour toi c'est du 50-50 demain?
Oula. Ouais, c'est non mais c'est tu m'apostrophes comme ça, donc j'essaie de donner une tendance par rapport à ce que je pense. 51-49 pour nous. Moi je pense qu'on est plus fort que sur les deux dernières confrontations qu'on a perdu de justesse, et eux sont un petit peu moins bien. Eux, ils sont un petit peu moins bien parce que leurs deux détonateurs devant sont moins bien.
Ils sont moins bien.
Nico Williams, lui, il a pas joué pratiquement. Il est en train de revenir. Alors, est-ce qu'il va jouer ou est-ce qu'il va jouer un peu plus contre nous? Il y a de grandes chances, mais à quel niveau, on ne sait pas. Et Yamal, même si à tout moment, en effet, c'est un joueur qui a tellement de talent, il peut te faire mal. Je le trouve quand même il a du mal à éliminer il y a beaucoup d'arrière gauche qui sont en train de faire des matchs inespérés contre lui, alors que normalement ils prennent le bouillon, et là j'ai vu pas mal d'arrière gauche arriver à le contrer sur quand il vient fixer comme il fait d'habitude là. Voilà, il est un petit peu moins performant et en tout cas un petit peu moins incisif. Alors est-ce que du coup les trucs se sont inversés? Oui, parce que moi je pense qu'on était quand même bien dessous à un moment donné. Quand on jouait contre eux, on savait pas comment faire parce que trop de qualité technique, trop de certitude, trop de talent individuel. Sauf que là, j'ai l'impression que je suis pas sûr que les Espagnols soient aussi sereins que ça avant de nous rencontrer. Voilà. Donc ouais. Allez, c'est 49 pour te faire plaisir. Tu aimes les chiffres, toi.
Excellent. Non mais c'est vrai, Jérôme. C'est là, on verra demain. On va enfin avoir un gros match avec une équipe qui a l'habitude d'avoir la possession. C'est l'équipe qui tient le plus le ballon de cette Coupe du Monde. Là, même pour la France, toi, c'est ce que tu veux au milieu de terrain, ce milieu de terrain renforcé. Mais c'est un vrai changement par rapport au reste de la compétition. Pour une fois, on n'aura pas le ballon a priori.
Bon, non, on l'aura pas.
Parce que ça va nous convenir mieux, non?
On l'aura pas. Après,
on l'a pas eu avec les Marocains, on l'a pas eu non plus.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Le Maroc a eu la possession.
Ouais, bon, après,
c'était une possession stérile. Ouais,
hein, après ouais, le Maroc, la possession, elle était dans leur camp. Donc, ouais. Je pense que ça sera pas le cas du gars des Espagnols. Du moins, c'est pas leur principe de jeu dans tous les cas. Alors après, moi, je dis ça parce que je me souviens du match qui était très spectaculaire. Hein, le dernier match qu'on a joué, c'était la demi-finale de
Cherki, magnifique.
C'était quoi la National League, ouais, c'est ça.
Exactement.
Et quand tu vois comment ce qu'on a pris le 4-0 à 4-0, quand tu vois comment on a joué. On a joué avec 4 joueurs offensifs.
C'est vrai.
Déjà. Et il avait insisté. On est revenu, il y a eu des changements, on est revenu. Alors après, ça fait 5-4, ça a fini en folie, tu vois. Ça aurait pu faire plus sévère pour nous. Mais n'empêche que, tu vois, c'est comme si... Alors je te dis pas, j'entends ce que dit Eric et Duga, et surtout Eric, sur les points forts de l'Espagne. Bien sûr que Nicolas Williams, il est pas en forme comme il était avant. Oui. Que Yamal, il revient. Attention, parce que Yamal, je trouve que... Il est son dernier match, il est très satisfaisant. Pas sur la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, elle est quand même très très bonne. Donc tu te dis que lui, à tout moment, les grands joueurs, ils sont là sur les grands matchs. Ouais. Donc attention. Et le milieu de terrain, moi je le trouve, quand tu leur laisses le temps et qu'ils sont surnombre, et ça va être le cas si on joue comme ça. Attention,
ça ronronne, parce que tu parlais de stérile, ça ronronne aussi.
C'est vrai, ça ronronne, mais tu cours après Eric.
Donc le Portugal,
ça ronronne, mais tu te fatigues quand tu cours après le ballon. Pour moi, c'est le jeu espagnol. Ouais. Alors bien sûr qu'ils ont de la réussite, on est d'accord. Ils marquent deux fois Merino qui rentre et deux fois quasiment les mêmes buts en fin de match. Ouais. Ok, ça fait partie de la réussite. Ouais, mais la réussite, nous aussi on l'a eu. Et quand je dis que tu pourrais changer à jouer avec trois joueurs offensifs, et c'est pas forcément se renier et dire oh là là, tu te rends compte Didier Deschamps, ça y est c'est dur, on remet un joueur. Non, c'est par rapport à l'état de forme de Koné et surtout moi je le dis. Sur les deux derniers matchs de l'équipe de France.
Donc t'enlèves
on a joué un petit Maroc. On n'a pas été flamboyant, spectaculaire. Ouais. Les joueurs offensifs, on en a parlé. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait un grand match contre le Maroc.
On va en parler tout à l'heure à
10h. Contre le Paraguay, on nous a expliqué, bien sûr, qu'il y a le côté truqueur, tricheur, tout ce que tu veux, du Paraguay. Mais on a été très moyen.
Ouais.
Donc ça fait deux matchs avec les quatre joueurs.
Il ne peut pas se renier, Dédé.
Tu penses que c'est se renier?
Je pense qu'il a voulu bien finir Deschamps. Il a envie de bien finir. Il a trouvé une identité de jeu qui le réhabilite un peu. Deschamps, les seules critiques qu'il subit, c'est sur la qualité du jeu.
Oui, c'est ça, ouais.
Il se retrouve à changer, à modifier son truc. Et alors, si tu gagnes.
Et que tu perds.
Que c'est bien. Et que tu perds, il prend un risque important. Sincèrement, arriver comme ça en demi-finale avec toute la confiance qu'a ton équipe aujourd'hui. Et puis cette équipe, elle a quand même demandait depuis longtemps à jouer comme ça. C'est aussi l'équipe qui a demandé à jouer avec ses quatre attaquants. Et on voit les joueurs qui font l'effort pour pouvoir jouer comme ça. C'est-à-dire qu'ils font les efforts physiques. T'as quand même ce Olise qui fait les efforts, qui est discipliné. T'as Dembélé qui est discipliné. T'as Doué ou Barcola qui sont disciplinés.
C'est vrai que c'est des joueurs à vocation offensive.
C'est vrai que on s'imagine qu'on va peut-être souffrir avec ce milieu de terrain espagnol qui a l'habitude de jouer ensemble, qui redouble de passes, qui verticalise pas forcément beaucoup le jeu. Mais punaise, quand même, quand t'as fait autant de choses et quand les joueurs ont autant respecté l'équilibre de l'équipe, malgré tout, t'as des équilibres, c'est vrai. Mais je trouve que ça serait un petit peu se renier quand même. Moi, je vois pas.
Et un grand merci à Fabrice Hawkins qui est venu et qui nous a donné toutes ces infos. On sera avec Flo Germain dans un instant qui a croisé les joueurs espagnols et surtout on va ouvrir le procès de tous ces supporters du Real Madrid frustrés de voir Mbappé briller à la Coupe du Monde. Rotten sans flamme jusqu'à 20h avec Eric Dimeco, Christophe Dugarry et Jérôme Rotten. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
La frappe de Coubarsy, la Messe qui la relance, à la but. Incroyable! Et c'est logique! C'est totalement logique que l'Espagne aille chercher sa demi-finale!
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, oui, on est bien dans Rotten sans flamme, en direct du Flora, brasserie parisienne dans le 9e arrondissement, sur les grands boulevards. On est là depuis le 11 juin. Ah oui, ça fait un mois maintenant, ça fait un mois qu'on est là tous les jours et on se régale. Et surtout, on arrive au bout, la dernière semaine de cette Coupe du Monde. Et heureusement, pour l'équipe de France, pour la France, on est encore en lice. On jouera demain contre l'Espagne, la demi-finale. On est avec Benoît Boutron, on est avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco. Dans 15 minutes.
Julien Escudé, international français, consultant pour les médias espagnols, qui sera avec nous. Tu me fais peur, tu dis plus c'est tout droit.
C'est tout droit. Mais il y aura quelques.
Virage.
Ouais, je pense qu'il y aura un ou deux virages.
Il y a un péage.
Okay. Surtout.
Après, tu peux aller au bout. Ça péage, toi, Jérôme ?
Non.
Oh, moi, ça me va. Hein. Si on va tout droit.
Non,
et puis on gagne 3-0 tous les matchs.
C'est bien de souffrir. De toute façon, il y a bien un match dans la compète où tu es obligé de souffrir.
Moi, je pense que ça va être intéressant et qui peut peut-être poser un. Troubler la situation, c'est-à-dire que l'équipe de France, pour l'instant, elle n'a pas souffert. Elle a battu toutes ses équipes. Je ne vais pas dire que c'était en rigolant, mais il n'y a aucun adversaire qui était vraiment dangereux. Tu te retrouves avec trois adversaires en demi-finale qui ont souffert pour en arriver là. Et qui ont montré qu'ils pouvaient aller chercher des victoires la souffrance.
Et pourtant, l'adversité n'était pas terrible non plus.
C'est
fou. Ouais. Du gars, l'impression qu'il est devant un parc d'attractions. Ça y est, sa Coupe du Monde commence. On est le 13 juillet.
Ah oui.
Avant la demi-finale. Ça y est, c'est parti.
Le reste, t'as eu quoi comme surprise? Le seul match où la France a un peu souffert, c'est peut-être face au Sénégal, la première mi-temps.
Ouais.
Alors, Florent Germain est à Dallas pour RMC Sport. Salut Flo.
Salut les amis, salut à tous.
Ah, magnifique.
Ça va les gars?
Salut Flo.
Passe le bonjour de JR à Dallas. Flo,
il est connu. Il y a beaucoup de maillots de Rotten et Dugarry à Dallas.
Ah bah j'imagine.
Je suis
pas surpris. Tu as croisé des joueurs espagnols, Alex Baena, Pedro Porro. Est-ce qu'ils sont confiants justement avant la demi de demain?
Ils sont confiants. Enfin, en tout cas, ils veulent pas trop entrer dans le jeu de qui est favori. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'équipe de France? Parce qu'il y a eu des petites phrases ces derniers jours, notamment Lamine Yamal qui a déclaré juste après leur qualification contre la Belgique que s'il y a bien une équipe dont les Bleus doivent avoir peur, c'est l'Espagne. Donc ça a un peu fait réagir. Donc je pense qu'il y a un peu de prudence chez les joueurs de la sélection espagnole désormais. On va écouter Pedro Porro. Alors c'est l'anniversaire de Lamine Yamal aujourd'hui. Donc il a beaucoup été question de ce sujet-là que vous allez avez évoqué à l'antenne, savoir si Lamine Yamal doit, ça doit être son match demain contre l'équipe de France. Il doit vraiment lancer sa Coupe du Monde dans la dernière ligne droite. Et on a posé la question à Pedro Porro de l'inquiétude qu'il pouvait y avoir éventuellement face à ce quatuor offensif français. Les latéraux espagnols Cucurella et Pedro Porro sont en général très offensifs. La question était de savoir si il fallait que l'Espagne s'adapte et soit beaucoup plus prudente demain. Écoutez.
Bueno, pues como he dicho antes en otras ocasiones, estar concentrado.
Il faut être concentré à 200%, espérer que la France ne soit pas dans un grand jour. On sait qu'ils ont vraiment de la qualité, surtout devant. Il faut une grande Coupe du Monde, mais nous aussi. Mais peur, non, on n'a pas peur. Juste être concentré sur nous, sur notre jeu. Si on leur demande, pareil, ils vont dire qu'ils n'ont pas peur de l'Espagne. Donc c'est une question de détail, de concentration, surveiller leur potentiel et penser à nous. Après, que eux aient confiance, ça ce sont des mots. Qu'ils soient favoris ou pas, je pense pas. En tout cas, nous, on est sûr de notre force et ce qui se dit à l'extérieur, bon, ça on s'en préoccupe pas.
En tout cas, énormément de monde ici à Dallas Trinity. C'est un centre d'entraînement réservé normalement à une section féminine de football. On a assisté à l'entraînement. C'est vrai qu'on sent les Espagnols vraiment très détendus. Alex Baena nous disait que on avait des joueurs à l'hôtel très tranquilles, que voilà, ça parlait pas trop du rendez-vous de demain encore, que ça jouait à la console, les familles étaient venues. Donc, il semble aborder ça les Espagnols avec voilà le côté tranquillité et sérénité, avec tranquillité. Et sérénité. Écoutez justement le joueur de l'Atlético Madrid. La question justement avec Alex Baena était de savoir si l'équipe de France forçait l'Espagne à s'adapter et quelle était la clé du jeu. Lui, il est très clair, Alex Baena. La clé du jeu, selon lui, c'est l'Espagne qui l'a.
La clé, c'est nous qui l'avons. On sait qu'on est fort, costaud, surtout dans notre jeu qui est d'avoir la possession, le ballon. On fera juste attention à ne pas perdre trop de ballons parce qu'ils sont très très forts en contre-attaque. C'est sûrement ça la clé du match. Mais d'abord se concentrer sur nous. Oui, ce sont vraiment deux styles différents. Une opposition de style très intéressante. Nous, on aime avoir le ballon, continuer à faire des passes, plein de passes. Et eux, ils vont très vite devant, en transition. Donc ce sera le danger. Deux styles de jeu, mais ce sera forcément un beau match.
À l'espectateur mañana, seguro.
Voilà, ça, on n'en doute pas, un grand match. Et d'ailleurs, quel compo de l'Espagne? Je ne sais pas si on aura des éléments de réponse avec la conf de Luis de la Fuente tout à l'heure, qui sera aux côtés de Lamine Yamal d'ailleurs. Mais la seule incertitude, c'est de savoir si Fabian Ruiz ou Pedri, enfin, lequel des deux jouera, parce que pour le reste, normalement, la sélection espagnole tient son 11, mais c'est vrai qu'il y a un petit doute entre le joueur du PSG et le joueur du Barça.
Merci Flo.
Merci Flo.
Coup d'envoi demain à 21h et tout de suite, démarrons le procès des fans du Real.
RMC, Roten sans flamme.
Rendez-vous compte quand même, il a marqué 58 buts en équipe de France et on continue à lui cracher dessus. C'est le Mbappé bashing matin, midi et soir. C'est tous les jours, on trouve un truc à dire sur Mbappé, sa com, ses trucs, etc. Il a remis les pendules à l'heure. Il est essentiel. Merci Kiki.
Le procès de Roten sans flamme.
Voilà, déclaration d'Olivier Truchot.
On dit jamais assez merci à ce Kiki, tu vois.
Et voilà, exactement. Bien vu, Eric. La frustration, l'amertume surtout de certains Olivier. Fans du Real devant cette Coupe du Monde. Ils voient Mbappé, leur joueur star, impressionné par ses perfs et sa régularité. Il est co-meilleur buteur avec Messi, 8 buts marqués. Surtout, c'est son attitude qui est remarquable. Un vrai leader sur le terrain qui compte pas ses efforts. Écoutez, Edgar Groulot est rentré à Madrid. Il en a rencontré quelques-uns. Que pense-t-il justement de ce Mbappé version équipe de France?
Je suis un peu frustré, on ne va jamais rien gagner si les joueurs se concentrent juste sur leur sélection. Là, Mbappé est différent, il est plus appliqué, il court plus.
Il est beaucoup plus engagé et impliqué avec la France. On demande qu'il donne tout sur le terrain. Raoul était une idole parce qu'il y laissait ses boules et sa vie. Mbappé avec le Real.
Je suis désolé, mais c'est très mal Mbappé.
Voilà la réaction des supporters du Real. C'est pas le seul madrilène à briller. Vous avez vu Jude Bellingham avec 6 buts et une passe avec l'Angleterre. On va ouvrir le procès ce soir des supporters du Real qui sont frustrés de voir Mbappé briller à la Coupe du Monde. On a un procureur, Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Eric, tu es procureur aussi alors?
Moi je défends Mbappé, ouais.
Et ben voilà, donc tu vas attaquer les supporters du Real. L'avocat des supporters, c'est Jérôme Roten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et le verdict sera rendu par Philippe au 32-16. Salut Philippe.
Ouais, salut l'équipe.
Salut Philippe.
Bienvenue dans Roten sans flamme. Ouais. Dugas, à toi l'honneur. Donc tu ne comprends pas ces réactions des supporters madrilènes.
Mais non, mais elles sont stupides, elles sont seulement stupides. Je ne sais pas si les gens qui parlent comme ça de Mbappé, ils sont abonnés au stade, ils vont voir les matchs. Parce qu'à un moment, un mec a marqué 42 buts, je crois, en 44 matchs, nous expliquer que c'est lui, c'est sa faute à lui si le Real Madrid ne gagne rien. Je trouve ça assez inadmissible. Alors après, tu peux toujours espérer que ton joueur fasse plus, fasse toujours mieux, bien évidemment. Mais c'est quoi faire mieux quand tu as marqué 42 buts en 44 matchs? Je ne vois pas ce que c'est. Et si les Espagnols, ils ont envie de taper sur Mbappé, il faut qu'ils tapent aussi sur Bellingham, il faut aussi qu'ils tapent sur Vinicius, il faut qu'ils tapent sur tous les joueurs en gros qui ont joué la Coupe du Monde et qui sont bien meilleurs avec leur sélection. Le problème, c'est que s'ils sont tous meilleurs avec leur sélection, c'est que le problème vient peut-être du Real Madrid et qu'il va falloir un peu trouver de la stabilité. Il va peut-être falloir recruter des joueurs de meilleur niveau plutôt que des joueurs en fin de contrat. Voilà, il va falloir retrouver une vraie stratégie de recrutement de la part du Real Madrid. Ils ont fait venir Mourinho. Pourquoi pas aujourd'hui, voilà, je leur souhaite que ça marche, je leur souhaite que ça fonctionne, Mourinho. Mais m'expliquer qu'aujourd'hui le Real Madrid attend de retrouver la victoire et son renouveau en pensant à prendre Mourinho, tu parles d'une stratégie, toi. Tu parles d'une vision sur le futur, sur l'avenir, sur ce qui se passe, sur le football moderne qui a changé. Mourinho qui a rien gagné depuis en veux-tu en voilà. Donc, écoute, aujourd'hui, je pense que le Real Madrid, le problème du Real Madrid, c'est pas Mbappé, c'est que le Real Madrid est en pleine reconstruction. Le Real Madrid est en déliquescence, mais certains pas de la faute de Mbappé. Je trouve que Mbappé remplit parfaitement son rôle et je trouve que ça profondément injuste que d'accuser Mbappé sur les contre-performances du Real Madrid. Dire qu'il peut encore faire mieux, on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer. Je suis pas loin de partager un tout petit peu leur avis sur l'attitude. Qui doit être meilleur, il doit peut-être avoir une attitude un peu plus de leader, mais peut-être qu'il a aussi besoin de temps lui aussi, parce que les choses ne se font pas comme ça. Il serait arrivé d'entrée les trois premiers mois, il aurait engueulé tout le monde, il aurait dit toi tu fais ci, toi tu fais ça, machin, toi, on aurait dit mais pour qui il se prend celui-là. Et là maintenant que le Real Madrid n'avance pas, on dit ah ouais, il faut qu'il prenne le leadership, il faut qu'il soit ci, il faut qu'il soit là, il faut qu'il commande, il faut qu'il fasse à l'équipe de France. Il a mis le temps pour être le leader de l'équipe de France, et peut-être qu'il faudra du temps aussi avec le Real Madrid. Il faudra aussi d'autres partenaires à mon avis.
Eric.
Écoute, il a tout dit. Il m'a pris tous mes arguments. Moi, je suis d'accord. Il a ses stats qui parlent pour lui. Le seul problème, c'est l'attitude. Sauf que, moi, j'ai une explication. Dans un club comme le Real, tu prends pas le leadership comme ça. On te le donne. Surtout quand tu viens d'arriver depuis 2 ans et qu'il y a des mecs qui sont là depuis des années. Et sauf que là-bas, personne ne donne
on
rien.
On a vu Eric au début quand l'entraîneur il a voulu faire jouer l'autre. Ils ont commencé à se plaindre. Vinicius,
non, c'est moi ça. Le numéro. Non, mais l'ambiance dans le vestiaire, c'est le coach qui doit la créer. C'est le fait de donner des responsabilités à Mbappé, parce que ne rêvons pas, une équipe de France s'il est comme ça, c'est parce que Didier lui a filé toutes les clés du camion.
Ah bah
et lui l'assume. Et alors qu'au Real, personne n'a fait ça. Et donc si les supporters du Real ou les dirigeants du Real ou les joueurs du Real pensent que le problème c'est Mbappé, ben ils se trompent et ils vont continuer à accélérer en allant dans le mur. Parce que moi quand je vois la défense du Real l'an dernier, il est indigne du Real. Indigne du Real, les mecs sont sur le terrain. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils regardent un peu la politique générale du club, la manière dont ils ont construit l'effectif, voire même le fait peut-être que de virer Xavi Alonso, qui pour moi était une bonne idée, mais bon, ils lui ont pas laissé le temps de trouver la solution.
C'est aussi le vestiaire qui a voulu s'en séparer, hein, bien sûr.
Oui. Mais lesquels du vestiaire? Parce que j'ai pas l'impression qu'Mbappé a voulu s'en séparer, moi.
Non, il y a une relation forte avec
voilà.
lui.
Voilà. Les mecs qui ont voulu virer Xavi Alonso, qui veulent pas qu'Mbappé prenne le leadership, qui veulent, eh ben peut-être que c'est eux les responsables.
Bon, Jérôme, parole à la défense. Tu vas défendre les supporters madrilènes.
En gros, moi j'entends hein, ce que disent Eric et Duga, et je suis pas loin de penser la même chose sur pas mal de points. Mais ce qui est sûr, c'est que on peut pas non plus remettre en question tout un stade de 90 000 personnes qui siffle un joueur comme Mbappé. Alors ça veut dire que le nombre de buts, non, mais je vais te dire,
on peut pas remettre en cause.
Ben parce que ça arrive pas à Bellingham.
Il y a une loi.
Ça arrive pas. À... Vous avez cité Bellingham qui réussit sa Coupe du Monde, ok. Ça arrive pas à Vinicius. ça arrive qu'à Kylian Mbappé. Et pourtant, en effet, il a mis 25 buts cette année encore, avec un nombre de matchs moins important que l'année dernière parce qu'il y a eu plus de blessures. En effet, donc s'il y a des sifflets, on est tous aussi passés par là, c'est que les gens... Alors, il y en a qui peuvent se tromper, il y en a qui peuvent avoir un délit de sale gueule. Moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas de délit de sale gueule envers Kylian Mbappé parce qu'ils étaient très contents de l'avoir au Real. Et surtout, ils s'imaginaient une chose, c'est qu'un joueur qui réalise son rêve de gosse, et c'est le cas de Kylian Mbappé, de jouer au Real Madrid, allait montrer beaucoup d'investissements. La première année, ils lui ont pas tenu rigueur. Il a marqué beaucoup de buts. En effet, il a été soulier d'or. Pas de souci. La deuxième année, le Real ne gagne pas. Donc bien sûr qu'il fait partie un élément fort de ce Real Madrid, et forcément tu t'en prends aux éléments forts quand l'équipe ne gagne pas et qu'elle dégage un manque de constance, de régularité, qu'elle dégage moins de force qu'il y a 2-3 ans. Donc tu te dis écoute, on va s'en prendre au cadre, et ils s'en prennent avant tout à Kylian Mbappé. Moi je reste persuadé que ce qu'on a vu de la Coupe du Monde, tant mieux, et je suis le premier à le dire. Pourtant, je le porte pas dans mon cœur sur sa communication et sur son état d'esprit et même son comportement. Tu vois, là, je trouve que en effet, dans ce tournoi, c'est un tournoi. Ouais. Attention, où ils sont recentrés sur le foot, que sa priorité, ça reste le football et ça se voit. Et quand la priorité de Kylian Mbappé est le football et qu'il met tout en œuvre pour être bon. Sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, et d'apporter ce leadership parce qu'il a le brassard de capitaine, mais c'est pas parce qu'il l'a pas au Real qu'il doit pas être un leader, d'accord ? Donc dans son comportement, je trouve qu'en équipe de France, en effet, là c'est la copie parfaite, tant mieux. Mais moi, je dis juste que, attention, okay, la copie parfaite sur le terrain, il marque des buts, et Duga, t'es le premier à le dire, et on le constate, que le niveau des matchs, c'est pas non plus ce qu'on peut avoir dans au club, où le niveau est bien plus important et plus supérieur. Et c'est pour ça que par moment, il y a eu des faiblesses aussi de la part de Kylian. Mais c'est surtout pourquoi aujourd'hui, en effet, c'est un sans faute avec l'équipe de France, et que au Real, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens qui vont voir les matchs, les supporters qui sont là-bas, il y a un manque d'investissement. Je vais pas vous rappeler tout ce qu'il s'est permis de faire aussi en dehors dans sa vie. C'est sa vie privée, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a des choses dans la communication et dans le comportement, dans l'image que tu renvoies, que tu peux pas faire. Et il a fait un max de conneries pour moi l'année dernière, et ce qui a retourné la mentalité et surtout la vie des supporters et l'image qu'ils avaient sur lui.
Le verdict de Philippe.
Donc moi, je reste, j'espère voir la même copie que Kylian Mbappé à la Coupe du Monde au Real. Je reste sceptique quand même.
Philippe, qui remporte ce procès ?
Ouais, alors, Jérôme a été courageux, mais a sorti les rames, mais ça ne suffira pas. Parce que non, comme l'a dit très bien Duga et Eric, je pense que le problème, il ne vient pas de Mbappé au Real. Et c'est vrai que les supporters du Real, eux, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pris de titre, et bien sûr ils tapent sur la tête de gondole, en fait. Mais si on regarde les défenseurs, l'engagement que mettent les défenseurs sur les duels et tout, je pense que il y a pas beaucoup plus d'engagement que des fois que Kylian peut en mettre pour du repli défensif, hein. Donc après en plus c'est difficilement comparable avec l'équipe de France dans l'attitude, parce qu'en équipe de France il a un statut qui est bien différent que celui qu'il a au Real, et là il est en mission, on le voit, et c'est très bien pour nous, mais
donc il n'est pas en mission au Real, tu le reconnais.
Il n'est pas en mission au Real, il n'a pas le même statut,
c'est quoi le statut
des buts, et en 2 ans il est 2 fois Pichichi, hein. donc lui il fait le job quand même, hein.
Et pourquoi les gens sifflent pas Bellingham alors?
Allez, c'est
pichichi. Il est pichichi, mais pourquoi pourquoi ils sifflent pas Bellingham et Vinicius? C'est bizarre quand même. Mais les gens sont cons quand même.
Il est pichichi.
Il est pichichi. Même pichichi, il le siffle quand même. Mais c'est bien. Mais continuez à dire que c'est bien, il est parfait.
On en parlera avec Julien Escudé, notre invité international français, consultant pour les médias espagnols, dans un instant. Allez, à tout de suite.
Ils vont gagner le Real l'année prochaine.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h49 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme, à 10 minutes de la fin de la première heure, mais vous inquiétez pas, après 19h, on est de retour avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron pour continuer à parler de
Michael Olise
de l'équipe de France.
Ah, programme. Oui. On vous attend au 32-16. Est-ce que cette demi-finale sera déterminante dans sa carrière 32-16, donc pour participer avec nous. On est en veille de demi-finale de Coupe du Monde entre la France et l'Espagne, et tout de suite, on accueille un spécialiste du foot espagnol.
RMC, Rotten sans flamme.
Pedro Maris, gol de Escudé. Gol.
Hello, Jérôme.
Julien Escudé, international français installé en Espagne, consultant pour Radio Marca et Movistar, et notre invité Jérôme ce soir.
Salut Julien.
Bonsoir à tous.
Salut Julien.
Salut Julien.
Ça va, t'es en forme? Je sais pas où c'est vous l'avez trouvé celle-là. Hein.
On a fouillé,
on est allé loin. On est allé loin.
Ouais. On a passé l'après-midi, mais on a trouvé.
Ouais. Tout le monde nous a dit, mais si, il a mis un but. Et ben, on l'a trouvé. Voilà. Ah, c'est un cadeau. Bon, Julien, comment tu vis la Coupe du Monde?
Ben super, hein, qu'est-ce que je vais vous raconter? Français qui habite en Espagne, demi-finale du Mondial, France-Espagne. J'estime pratiquement les deux meilleures équipes au niveau footballistique, au niveau des joueurs. Donc une finale avant l'heure. Et puis je pense aussi une demi-finale qui arrive au bon moment pour les deux équipes. Que ce soit la France affronter l'Espagne et l'Espagne tomber sur la France en demi. Aussi je pense, vu son évolution, c'est peut-être le meilleur moment pour aussi peut-être battre la France.
Julien, on parlait dans la première heure du rapport de force qui s'était peut-être inversé entre la France et l'Espagne. L'Espagne reste sur deux victoires avec pas mal de buts marqués et surtout une façon de jouer qui nous a fait du mal. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, la France est plus forte et l'Espagne peut-être un peu moins forte, donc ce rapport s'est inversé ou pas?
Inversé, c'est sûr que pour l'Espagne, déjà depuis le début du Mondial, la France était une des équipes favorites du fait des joueurs offensifs qu'ils ont, et on les connaît tous. Maintenant, peut-être que pour les Espagnols, ils n'attendaient pas, de leur point de vue et de leur jeu, d'être aussi mis en difficulté dès le premier match contre Cabo Verde et dans leur évolution. Ils sont beaucoup plus habitués peut-être à marquer rapidement, à avoir une meilleure gestion du match. Et sur tous les matchs, ça a été relativement, je ne vais pas dire poussif, mais difficile. Donc pour eux, dès le début, la France est favori, la France est au-dessus du lot. Ils s'attendaient, eux, peut-être à être à un meilleur niveau, mais ils ont réussi à avancer. Et ça, c'est aussi une nouvelle identité qu'a réussi à générer Luis de la Fuente. C'est d'avoir une équipe compétitive, même s'ils ne jouent pas bien. Ils sont solides derrière, ils arrivent à être efficaces en fin de match, à construire leur victoire. Et ça, ça génère un caractère d'équipe qu'on voit actuellement. Ouais.
Julien, comment tu juges, toi, le mondial de Lamine Yamal?
On estime, de par ses caractéristiques, en dessous de ce qu'il peut faire et de ce qu'on en a vu, je ne vais même pas dire toute la saison, parce que ça a été difficile. Maintenant, on a été joueurs autour de la table, toute la saison avec une pubalgie, toute la saison en gestion, un dernier mois et demi arrêté. Il est préservé pour rentrer dans la Coupe du Monde. C'est une des stars de la Coupe du Monde, donc je pense que dans son niveau, il évolue favorablement dans son niveau. Et puis là, la motivation, d'après les déclarations qu'il a faites, jouer la France en demi-finale, c'est là qu'il faut qu'il démontre vraiment que c'est un grand joueur. Donc on espère, du côté de l'Espagne, chaque jour il y a des articles sur Lamine Yamal, en espérant que ce soit le match référence de cette Coupe du Monde face à la France. Ouais.
Eric.
Je t'ai entendu parler de la défense qui est hermétique du côté de l'Espagne. Tu y crois vraiment? Parce que moi j'ai une autre théorie. Je pense qu'ils vont être en difficulté défensivement. Et je pense que c'est jusqu'à maintenant les équipes qu'ils ont rencontrées leur ont permis de nous faire croire que c'était solide derrière. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Et je pense que l'épreuve de la France va être une épreuve qu'ils n'ont pas connue depuis le début de la compétition.
Ouais, même si moi je pense, on voit les deux latéraux qui sont relativement offensifs, qui apportent beaucoup, mais aussi qui ont beaucoup de jus dans les replis défensifs, Cucurella, Porro qui s'est installé comme le titulaire à droite. Je crois qu'aussi ils ont gagné, c'est comment on appelle ça, l'amélioration du jeu de Rodri. Les deux premiers matchs, il a été très lent, en difficulté, et au fur et à mesure, il est rentré. Ça aussi, c'est une pièce importante devant la défense. Il y a eu le travail aussi de Pedri, où on estime que c'est vraiment un créateur, c'est lui qui dirige le jeu, mais c'est un joueur qui récupère énormément de ballons défensifs. Donc, c'est ce qui apporte un peu cette stabilité au niveau défensif. Mais comme tu l'as dit, Erika, ils ont dominé pratiquement tous les matchs. Il y a peut-être contre le Portugal, qui a vraiment été aussi un match un peu tendu. C'est le Portugal, c'est aussi un adversaire avec Ronaldo, des joueurs. Donc là, ils ont peut-être été un peu plus en difficulté. Mais là, contre la France, ça va aller très vite. Les phases de transition, ça va être très rapide, très vertical. Donc, il peut être en difficulté, je pense, plus dans l'axe, avec un Laporte-Koubarsi. Ça reste pas des flèches en termes de défendre vers leur but. Donc là aussi, je pense qu'ils vont être en difficulté. Ouais.
Julien, on parlait de l'hésitation. Alors étonnamment, le dernier match, c'est Ruiz qui a joué et Pedri était sur le banc, et tu parlais de l'importance de Pedri dans cette sélection. Qu'est-ce que tu penses, toi, demain? Est-ce que pareil, c'est Ruiz qui va commencer, Pedri, et t'as déjà parlé de Pedri, donc avec tout le bien que tu penses de lui, comme moi dans tous les cas, tu penses que Pedri est indéboulonnable quand même, et que c'était juste un choix sur ce match, et que demain il sera titulaire?
Non, ça a été discuté et commenté régulièrement. C'est vrai qu'il a fait un début de Coupe du Monde très, très poussif. Et on le sent beaucoup moins bien. On sent qu'il est un peu sur les rotules. Il a fait une grosse saison avec Barcelone. Après, il y a d'autres commentaires aussi qui sont intéressants. C'est sur le fait que Rodri a un peu ce rôle que normalement Pedri prend au niveau du Barça. C'est-à-dire qu'il revient très bas, récupérer des ballons. C'est lui qui organise. Et là, souvent, ils disent que finalement, Pedri, il est un peu caché par Rodri, qui prend tellement d'influence, qui veut tous les ballons, qui ordonne le jeu, qui donne le rythme, alors que normalement au Barça, c'est Pedri qui a ce rôle-là. Donc finalement, Pedri, on le voit courir, on le voit un peu partout et nulle part, et on sent que finalement, il a très peu d'influence et moins d'influence dans le jeu, dans la sélection. Et ensuite, pour Fabián Ruiz, c'est vrai que le sélectionneur l'aime beaucoup. Le sélectionneur, il a toujours fait confiance. Bon, là, il était blessé, un petit peu moins bien. Et là, il a remis titulaire. Là, il marque un but. Et pour le sélectionneur, il y a des indéboulonnables, à savoir le gardien, Laporte, Rodri, Fabián Ruiz, Oyarzabal. Il y a vraiment une colonne vertébrale de ces joueurs-là que normalement, s'ils sont bien, c'est eux qui doivent être
équipés. Ouais, ils bougent pas, quoi. Ouais.
Julien, ouais. Rassure-nous, t'es pour la France demain, hein.
Bien sûr. Je vais mettre mon petit maillot bleu un peu caché.
Ah,
mais
bah
ça
excellent
va.
Bon, et t'as un pronostic pour la demi-finale?
Moi, je pense favori la France avec un 3-1. Je pense
que 3-1, bah on prend
la
aussi.
France. Ouais. Je pense que ça va être bon. L'Espagne est un peu moins bien depuis dans son jeu, mais la France, si la France, sincèrement, avec la qualité du jeu, avec les joueurs qu'ils ont, s'ils n'arrivent pas à battre l'Espagne, maintenant, après les deux dernières défaites, c'est la dernière de Deschamps, c'est la demi-finale, tu peux peut-être retrouver l'Argentine en finale. Il y a plein de choses, et avec la qualité, comme ils jouent offensivement, c'est maintenant ou jamais. Donc la France doit vraiment être en pleine attaque et nous faire
plaisir,
et nous faire vivre.
C'est tout droit. Merci Julien, tu nous as rassuré. C'était le but. Donc merci beaucoup. Bon match à toi demain, et tu reviens quand tu veux dans Rotem sans flamme. Julien SQD, merci beaucoup.
Salut Julien, à bientôt. Salut, bye.
18h58 sur RMC. Dans un instant, Rotem se chauffe. Est-ce que cette demi-finale sera déterminante dans la carrière de Michael Olise? Rotem sans flamme jusqu'à 20h sur RMC. Jérôme Rotem, Eric Dimeco, Christophe Dugarry, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Rotem sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotem sans flamme.